Buongiorno.
Vous aimez le cinéma ?
Beaucoup.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est ?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
Ça te satisfait ?
Intensément.
J'aime bien discuter des films, vous voyez, et échanger des critiques.
Cela ne peut que nous réunir.
This is Cinérama.
Prenez le chemin habituel, la radio.
Bien, ouvre tes oreilles.
Vous lisez les critiques, monsieur ?
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Je croyais que j'avais affaire à un expert.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je tombe des nues.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Nous allons parler évidemment cinéma, puis nous allons jouer à un blind test autour des super-héros. Alors, c'est pas la première fois qu'on fait ça dans cette émission, et c'est même quelques extraits que j'ai déjà diffusés, mais il y a très très longtemps. Alors, pourquoi un blind test autour des super-héros ? Tout simplement parce que Guillaume va nous parler de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et il nous parle aussi d'une autre grosse production de Northman. Quant à toi, Manu, bonjour, eh bien, c'est un plus petit film.
Bonjour, oui, il s'agit d'un film marocain qui s'appelle donc Les Femmes du Pavillon J.
Quant à moi, je vous parlerai d'un film qui a été récompensé au dernier festival de Cannes en 2021. C'est Nitram de Justin Kurzel. Et c'est le film qui a donc permis à Caleb Landry-Jones de remporter le prix d'interprétation. Mais nous partons sur les hauts plateaux boliviens avec Virginio et Cisa qui ne veulent quitter leur terre aride pour rien au monde. C'est Utama.
J'ai des choses importantes à vous dire.
This is Cinérama.
Je vous adore. Vous êtes la joie de mon cœur.
Nous sommes au cœur de l'Altiplano, cette région la plus haute du monde à être habitée après le plateau du Tibet qui culmine à 4000 mètres au cœur des Andes et qui s'étend sur 4 pays. Le Pérou, l'Argentine, le Chili et enfin la Bolivie où notre histoire prend place. Virginio et Cisa, un jeune couple d'amoureux d'à peine 80 ans, vivent avec leur troupeau de lamas et ce depuis toujours, perpétuant cette tradition ancestrale et conservant coûte que coûte leur étroite relation avec la nature. Une relation mise à mal malheureusement par la sécheresse généralisée qui depuis plusieurs années pousse les habitants de la région à déménager, voire à rejoindre la ville et à renoncer à leur existence rurale ainsi qu'à leur tradition. D'ailleurs, Clever, leur petit-fils de 19 ans, débarque un jour dans leur lamasserie afin de les convaincre de venir s'installer en ville avec le reste de la famille. Virginio, qui se sait malade, va-t-il renoncer à sa terre ? Le vieil homme et la terre pourrait être le sous-titre de Utama, premier long métrage de Alejandro Loaiza Grizzi. Le jeune cinéaste bolivien était photographe et chef opérateur auparavant et cela se sent. Il a également réalisé des documentaires, mais c'est par le biais de la fiction ici qu'il a décidé de parler de cette perte de repère au sein de la population rurale de Bolivie. Le peuple quechua dont font partie Virginio et Cisa compte encore aujourd'hui plus de 2 millions de personnes en Bolivie et 3 millions au Pérou. Un peuple avec son propre dialecte, ses propres coutumes, son rythme de vie mis à mal par le changement climatique. « Tu es en train de mourir », dit le vieil homme face à la montagne qui s'assèche, obligeant les troupeaux, les bergers et leurs femmes à partir toujours plus loin pour trouver de l'eau. Mais c'est aussi sa propre civilisation qui s'éteint et son corps également. Et face à cela, il n'a qu'une solution, continuer à marcher inlassablement, car marcher le maintient en vie, comme il le dit, mais pour combien de temps encore ? Grand prix du jury à Sundance, ce film bolivien a déjà le mérite de nous arriver d'un pays qui produit assez peu de cinéma et qui en exporte encore moins. D'une intense poésie mais plutôt pessimiste, Utama laisse malheureusement assez peu d'espoir quant à l'extinction des peuples indigènes. Et puis Utama, c'est aussi une histoire d'amour à l'écran et dans la vie, puisque Virginio et Cisa sont interprétés par Luisa Quispe et José Calcina, acteurs non professionnels qui incarnent quasiment leur propre rôle et que le réalisateur a découvert sur le plateau des Andes et qu'il a mêlé à des comédiens professionnels tels que le jeune Santos Choquet qui interprète Clever. Et c'est cette relation amoureuse mise à mal par le dérèglement climatique qui nous permet à nous, spectateurs de l'autre bout du monde, de nous identifier. Le troisième élément de ce couple, pas comme les autres, c'est donc l'Altiplano, cette haute région des Andes, merveilleusement filmée par Alejandro Loaiza Grizzi et par sa chef opératrice Barbara Alvarez, des plans extrêmement solaires, tout en ocre et en turquoise, qui rendraient presque la sécheresse cinégénique.
Utama est en salle depuis le 11 mai. On nous l'a appris, les Vikings étaient un peuple habitué à la rudesse. Voilà une histoire qui en contient un drame ultra-violent signé par le talentueux Robert Eggers.
Verrez-la ! Le roi, Milady, le roi !
Ton destin est écrit et tu ne peux lui échapper.
Avec The Northman, Robert Eggers entre dans la cour des grands. Alors s'il est trop tôt pour affirmer que le film est un succès puisqu'il débarque à peine sur nos écrans, il est déjà quelque part si on a suivi le buzz qui l'a précédé. Alors jusqu'à présent, Eggers s'est fait connaître par The Witch et The Lighthouse, deux films indépendants à l'esthétique léchée et aux ambiances particulièrement travaillées et parfois saugrenues. Son goût pour l'étrange et les cadrages millimétrés lui ont vite constitué un banc non négligeable d'admirateurs prêts à avoir en lui un déjà grand nom du cinéma contemporain. Et si on peut sagement se poser la question du fondement de cet engouement à une époque où tous les films remarqués le sont surtout par leur qualité photographique, pas si éloignée d'une esthétique Instagram, Eggers semble fédérer malgré ou à cause de la dimension bien plus réduite de sa maîtrise du rythme et d'une écriture forte, faisant donc la part belle à ses images. Alors qu'on pourrait le définir comme un enfant illégitime et un petit peu autiste de David Lynch, le voici qui revient avec un projet a priori aux antipodes de ses préoccupations, le film de Viking brutal et sanglant en forme d'épopée guerrière, bardé de stars internationales et budgétisé, excusez du peu, à peu près 90 millions de dollars. N'y avait-il pas de quoi perdre le Nord ?
Mon fils, tu m'as beaucoup manqué. Un jour, le royaume t'appartiendra.
Merci, mon père. Mon roi.
The Northman ne s'embarrasse pas d'une grande originalité et marche consciencieusement, pour ne pas dire sans vergogne, sur les terres d'un classique absolu, le maître étalon du genre, le Conan le barbare de John Milius. S'il n'est pas forcément dérangeant que les récits, au cinéma ou ailleurs, se ressemblent parfois, ici, c'est bien évidemment problématique, tant il semble que, depuis 1982, il soit impossible de battre le chef-d'œuvre de John Milius sur son propre terrain. Il faut dire que lorsqu'on décide de raconter l'histoire d'un enfant dont le village est rasé, qui est réduit en servitude, qui va s'élever au rang de guerrier pour ensuite se confronter à l'homme qui a tué son père, le scénariste de Jeremiah Johnson ou d'Apocalypse Now a fait tellement fort et dans les symboliques et dans les péripéties qu'il faut se lever tôt. Malheureusement, Robert Eggers est encore une fois bien plus intéressé par son environnement que par ce qu'il raconte, et cela cause un grave problème de cohérence. D'un côté, il y a une volonté louable de faire de ses propres mots le film de Viking ultime, avec rites, décorum et folklore exposés. De l'autre, il y a une imagerie, une pose héroïque fantasy qui renvoie plus à une cinématique de l'Assassin's Creed de chez Ubisoft qu'à Les Vikings de Richard Fleischer. Quant au fond, il fait forcément redite avec Conan le barbare, mais en allant dans un opposé total. Chez Milius, l'esclave arrivait à s'affranchir de sa quête de vengeance en devenant le surhomme nietzschéen par excellence et regagner ses galons d'homme libre. Chez Eggers, on a bien du mal à avoir un tant soit peu d'empathie pour une brute qui ne sortira jamais de sa carcasse de fanatique bas de front. Ce ne sont pas les allusions à Shakespeare, parce que le héros s'appelle Hamlet et est vaguement tiré d'une légende scandinave qui a elle-même inspiré Hamlet, qui sauve le tout. Car passé un début un peu prometteur, le récit se tasse et on s'ennuie ferme.
Pourquoi t'enfuir vers cette contrée infernale ?
Pour retrouver ce qu'on m'a volé.
Qu'est-ce que c'est ?
Le royaume.
Question film de Viking Mou et New Age, on avait déjà été servi avec le Valhalla Rising de Nicolas Winding Refn. The Northman préfère s'aventurer sur ses terres avec une mise en scène lénifiante faite de très longs travelling et de champ contre champ quand il n'y a pas une multiplication de plans face caméra rappelant cette fameuse esthétique Instagram dont on parlait plus tôt. Il aurait plutôt fallu continuer le brillant travail sur la civilisation et les mythes dans le 13e guerrier de John McTiernan, ou bien la relecture mythologique fascinante de Robert Zemeckis dans son exceptionnel La Légende de Beowulf. C'est également dommage pour son casting, parce que si on est toujours content de voir Ethan Hawke, Willem Dafoe et Björk sur grand écran, c'est quand même pour un temps très réduit ici. Les autres n'ont au final pas de véritable consistance, le pompon étant décroché par une Nicole Kidman au visage défiguré par la chirurgie, qui sonne terriblement anachronique dans cette épopée en chaussettes. Donc The Northman est donc un beau rendez-vous manqué, ou partiellement réussi, suivant votre tolérance au cinéma d'Eggers, mais en ce qui concerne le cinéma épique, on peut dire que c'est un beau four.
The Northman est en salle depuis le 11 mai. C'est un film qui a permis à l'acteur américain Caleb Landry Jones de remporter le prix d'interprétation. C'était à Cannes en 2021 et c'est seulement maintenant que Nitram de Justin Kurzel sort sur les écrans.
Avec vous, c'est du travail soigné.
Cinérama.
Et ça, c'est clair.
S'il y a un film qui m'a impressionné hein, lors du dernier Festival de Cannes, c'est celui-ci, Nitram, de l'Australien Justin Kurzel. Alors, non d'ailleurs que ce soit une réussite totale, mais la sélection 2021 de Cannes manquait un peu de panache. Et ce film avait ce mérite eh bien, d'être construit avec une ligne claire, une mise en scène limpide, en s'appuyant sur son personnage principal, le fameux Nitram du titre, joué par Caleb Landry-Jones, donc, qui a remporté le prix d'interprétation masculine de la compétition. D'où vient ce prénom Nitram ? C'est celui épelé à l'envers de Martin, Martin Bryant, un Australien qui, à Port Arthur, sur l'île de Tasmanie, un jour de 1996, eh bien, a tué 34 personnes en utilisant une arme semi-automatique. Un fait divers glaçant, comme il y en a peu, dont s'est emparé donc le réalisateur Justin Kurzel, réalisateur du poussif Assassin's Creed.
Dinner's ready.
On pourrait imaginer ne rien savoir de ce que va nous raconter Justin Kurzel. Hein. Ça ne changerait pas grand-chose à la simplicité de la proposition. Le réalisateur a décidé de prendre le point de vue du futur tueur. Il est de tous les plans. Alors si l'on devait faire le portrait de Nitram, on dirait sans doute de lui qu'il est un peu simplet, inadapté. Sans doute n'a-t-il pas eu le QI nécessaire pour aller loin dans les études. Alors quel âge a-t-il ? Eh bien on ne sait pas, une vingtaine d'années. Il vit chez ses parents. Il y a la mère qui semble à jamais marquée par ce qu'est devenu son fils. Et puis son père hein, qui fait des efforts pour le comprendre sans y parvenir tout à fait. Nitram fait tout pour être un surfeur. Il pourrait en avoir le physique, mais n'en a aucune des qualités. Hein. Il joue à l'être et ça lui convient. Et sur son chemin, eh bien, il rencontre une riche femme à qui il propose de tondre la pelouse pour quelques dollars. Mais cette femme, Plenosas, eh bien, va prendre Nitram sous son aile. On ne sait pas trop pourquoi et lui donner tout l'argent qu'il veut. Et de cet argent qui pourrait lui servir à décamper, Nitram ne fera rien d'autre que de trouver une solution pour se faire enfermé à vie. Son envie de posséder des armes est un virage bien pris par le réalisateur australien qui, pendant tout le récit, a balisé sa narration entre moments d'éclat et d'apaisement. La mise en scène de Justin Kurzel est délicate, hein, le récit avance par petits à-coups jusqu'au dénouement, et de la dernière scène, il ne montrera rien. Alors nous ne sommes pas là pour voir l'horreur, mais tenter de comprendre ce qui la précède et la nourrit, à chaque spectateur de retracer le fil du parcours de Nitram une fois que le générique tombe. On peut se rappeler le tout début du film, hein, une vieille vidéo qui montre un enfant dans un lit d'hôpital qui jure qu'il ne recommencera pas à jouer avec des feux d'artifice. Et on se doute bien de qui il s'agit quand le plan suivant, eh bien, c'est Nitram qui fait exploser des feux d'artifice au grand dam des voisins. Alors ce film, Manu, fait écho à un autre film, alors moi que je n'ai pas vu, un des premiers films de Justin Kurzel.
Il me semble que c'est son premier long métrage sur le serial killer le plus connu d'Australie en fait, et c'était Les Crimes de Snowton.
Et d'ailleurs c'était le même scénariste hein, pour ce film, c'est ce que j'ai lu, à défaut d'avoir vu le long métrage. Nitram de Justin Kurzel, excellent film, cru Cannes 2021, est en salle depuis le 11 mai. Le premier opus de Doctor Strange est sorti en 2016, il a fallu attendre 6 ans hein, pour voir la suite, mais encore plus de temps pour revoir un film de Sam Raimi.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Nous reviendrons aux questions plus tard. Ne lancez pas ce sort. Il est trop dangereux. Quoi ? Nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Le multivers est un concept dont nous ne savons pas grand-chose, pour ainsi dire rien. Ta profanation de la réalité ne restera pas impunie.
Cinq mois à peine après l'énorme carton de Spider-Man No Way Home, voici que débarque un autre wagon de l'écurie Marvel. Alors le 28e film pour être plus précis, mais aussi 5e film d'une phase 4 qui n'en finit plus de nous faire bâiller. Ça y est, les adaptations dites modernes de films de super-héros sont désormais assez vieilles pour pouvoir se citer de manière nostalgique ou faire du coup aux spectateurs bien éloignés de l'adolescence. Le premier Spider-Man de Sam Raimi fête ses 20 ans cette année. Sam Raimi, hein, donc un nom qui va vite revenir ici. Déjà hein, parce que la récupération des méchants de ses Spider-Man et du retour de son Peter Parker dans Spider-Man No Way Home constituait, il faut bien être honnête, le seul intérêt relatif hein, du Marvel de décembre dernier, et parce que Doctor Strange in the Multiverse of Madness marque son retour au sein de la Maison des Idées, toujours aussi fermement dirigée par le producteur Kevin Feige. Qu'on se le rappelle tout de suite, hein, Sam Raimi est un génie. Hein, c'est un cinéaste à l'inventivité folle, au sens de la narration décoiffant et un expérimentateur de tous les instants, faisant de lui le lien entre Murnau et Hitchcock, relié par l'électricité des cartoons des Looney Tunes. S'il avait eu les coudées relativement franches pour sa trilogie Spider-Man chez Sony, représentant ce qui s'est fait de mieux en termes de mise en scène de films comic book, on sent qu'ici, le poids du cahier des charges de Marvel Studios est différent. Alors, comme dit Pluton, Doctor Strange in the Multiverse of Madness arrive après une longue lignée de films qui se suivent tous et qui, entremêlés avec les séries produites et diffusées sur Disney+, les transforment tous en gros épisodes de 2 heures et quelques, plus qu'en véritable objet cinématographique. Alors comment un réalisateur aussi doué dans l'introspection que le spectaculaire allait-il s'en sortir ?
C'était le seul moyen. Mais je n'ai jamais voulu qu'une seule de ces choses se produise.
Eh bien, soyons honnêtes. Si, comme moi, vous êtes fan de la première heure de Sam Raimi et que cela faisait 9 ans que vous attendiez qu'il revienne aux affaires sur grand écran après son fabuleux Le Monde Fantastique d'Oz, vous risquez de vite déchanter. C'est une surprise pour personne. À la manière de la famille Broccoli sur la saga James Bond, Kevin Feige est le véritable maître à bord et fait plier les réalisateurs, prestigieux ou non, au canon de son univers. Malheureusement, et ce n'est également une surprise pour personne, le Marvel Cinematic Universe n'est pas le plus rigoureux ni le plus mieux pensé au monde, et cela va forcément impacter le film qui nous intéresse. Difficile du coup pour un talent comme Raimi faire exister des personnages malmenés par une narration aléatoire et à nous rendre un tant soit peu accessible cette ribambelle de gens au super-pouvoir tellement puissant que, sans cette accroche émotionnelle, nous ne pourrions décemment distinguer leur humanité et leurs enjeux. C'est l'une de ces minces victoires au sein de cette grosse machine industrielle. Mais pour une fois, un semblant d'affect envers certains protagonistes rendant le tout un petit peu moins stérile. Il y a un peu de cœur au sein de cette hystérie qui fait, comme d'habitude, beaucoup de bruit pour pas grand-chose au niveau d'une intrigue qu'il serait inutile d'essayer de résumer au-delà du contenu qu'elle est censée incarner. Non, le vrai problème ici est que l'on assiste à un film réalisé par Kevin Feige qui aura embauché Sam Raimi au storyboard pour ne garder que quelques idées ici et là, plutôt qu'un film de Sam Raimi tout court. Pour attirer et séduire les fans de la première heure, Feige et ses scénaristes fantômes ont déroulé le tapis rouge, faisant honneur à une très grande partie de sa filmographie. Il a des plans inclinés, des travelling avant décadrés, on aperçoit sa fidèle voiture présente dans tous ses films depuis Evil Dead, le protagoniste a un double mort-vivant comme dans L'Armée des Ténèbres, un globe oculaire quitte son orbite comme dans Evil Dead 2, il y a un personnage féminin possédé comme dans Jusqu'en Enfer, son ami et acteur fétiche Bruce Campbell vient faire l'habituel caméo rigolo. On fait même revenir le fidèle compositeur de Spider-Man, Danny Elfman. Entre ça et le fait que Doctor Strange verse frontalement, mais resté public, tout public bien sûr, dans l'ésotérique et le macabre, on pourrait se dire que c'est déjà pas mal. Certes, c'est bien évidemment plus inspiré que du John Watts ou du Chloé Zhao, mais rien n'égale un film de Sam Raimi quand celui-ci est le seul maître à bord. Alors si vous voulez voir ce qui est probablement la meilleure adaptation d'un comic book à l'écran et comprendre comment on passe littéralement du langage de la bande dessinée au langage cinématographique dans sa plus pure transcription, regardez L'Époustouflant Darkman d'un certain Sam Raimi.
Doctor Strange in the Multiverse of Madness est en salle depuis le 6 mai et ça nous donne l'occasion de jouer à un blind test spécial super-héros.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Alors, c'est un vieux blind test que j'ai ressorti. C'était une espèce de combat entre Marvel et DC Comics, évidemment. Mais alors, c'était un blind test extrêmement facile. La preuve avec ce premier extrait.
Vers la fin des années 30, la crise économique qui sévissait à l'échelle mondiale n'avait même pas épargné une grande cité comme Metropolis. En ces temps de peur et de désarroi, la mission d'informer le public était largement assumée par le Daily Planet, le grand quotidien national, qui, par sa clarté et son honnêteté, était devenu le symbole de l'espoir pour les habitants de Metropolis.
C'est trouvé.
Et c'est donc Superman de Richard Donner.
Oui, film de 1978 avec Christopher Reeves. Premier long métrage sur le super-héros créé dans les années 30, un peu avant que Krypton n'explose. Celui qui deviendra Superman est envoyé sur Terre. Il est recueilli par le vieux couple Kent, qui le rebaptise Clark. Et une fois adulte, il devient reporter au Daily Planet et souhaite mener une vie normale, mais c'est plus fort que lui. Il doit combattre le mal. À noter qu'il y a eu des versions longues du film et puis des versions spéciales télé. Il a recueilli 2,6 millions d'entrées en France. Deuxième extrait de ce blind test qui concerne les super-héros de DC Comics ou de Marvel.
Légalement, on est tenu de la relâcher.
Ce qui est légal s'applique aux êtres humains.
Les lois ne s'appliquent pas aux mutants. Le risque est trop grand. John, la guerre est imminente.
Oui, en effet. Mais contre qui nous battons-nous ?
La question est excellente, mais le terme de guerre n'est pas très indiqué, car il sous-entend que les deux parties auraient leur chance de l'emporter.
Donc c'est trouvé, Manu ?
Oui, plus ou moins, on va dire. Hein. C'est donc X-Men, le commencement. Donc si je ne me trompe pas, c'est le film de Matthew Vaughn.
Oui, voilà. Tout à fait. Film de 2011, alors donc il s'agit d'une préquelle à la série de films X-Men. X-Men, le commencement, nous entraîne aux origines de la saga X-Men, révélant une histoire secrète autour des événements majeurs du XXe siècle. Un moment où le professeur X et Magneto étaient encore copains. La France arrive en troisième position en termes de box-office au niveau mondial. Et pourtant, seulement 2 millions d'entrées. J'ai été très surpris.
Je trouve que c'est le meilleur de tous les X-Men. Peut-être parce qu'il est moins axé sur les effets spéciaux que sur un récit un peu d'espionnage à l'ancienne. Mmh.
Ça tient peut-être au réalisateur aussi. Troisième extrait de ce blind test consacré aux super-héros.
Ainsi, Rorschach pense que quelqu'un prend les masques pour cible. Hmm?
Tu crois que c'est possible?
Je crois statistiquement qu'un meurtre ne fait pas la règle. Rorschach est un inadapté social, comme l'était le comédien. Il était limite nazi. Tu le sais mieux que quiconque.
Je ne suis pas là parce qu'il me manque.
Rorschach a l'air de penser que nous sommes les seuls à connaître nos vraies identités.
Une chose est sûre, la tienne est connue de tous. C'est pourquoi je te préviens en premier.
C'est donc le The Watchman de Zack Snyder. Donc c'est l'adaptation de la bande dessinée, enfin écrite par Alan Moore.
Mmh. Film de 2009, film qui se déroule dans une réalité alternative hein, où les États-Unis et l'Union soviétique sont sur le point d'entrer en guerre et où un groupe de super-héros enquête sur une machination qui semble dirigée contre eux mais cache en fait un plan plus global. Et à noter que la guerre du Vietnam a été gagnée grâce au docteur Manhattan. 750 000 entrées en France, autant dire que c'était un échec pour la Warner qui était derrière ce film. Nouvel extrait extrêmement facile de ce blind test.
Ce soir, vous allez tous participer à une expérience sociologique.
À minuit, j'explose tout le monde.
Cependant, si l'un des passagers d'un des ferries appuie sur le bouton, j'épargnerai ses occupants. Alors qui va gagner ? La vermine ardemment poursuivie par Harvey Dent ? Ou les civils tout beaux, tout innocents ? À vous de choisir. Oh, et je vous conseille de vite vous décider car les passagers de l'autre ferry pourraient être moins charitables que vous.
On n'approche pas.
Au nom de quoi c'est vous qui décidez ? On devrait quand même avoir notre mot à dire.
C'est pas à nous de mourir. Tous ces criminels ont déjà eu leur chance.
Il est hors de question d'évoquer cette éventualité.
Pourquoi on n'a pas le droit de l'évoquer ?
C'est exactement ce qu'il se dit sur l'autre bateau.
C'est simple, il nous suffit de voter.
C'est donc le Batman de Christopher Nolan, The Dark Knight.
Oui, le Chevalier Noir, film de 2008, donc là c'est l'univers DC Comics. Deuxième volet de la trilogie Batman engagée par Christopher Nolan, 3 ans plus tôt. Ce film décrit la confrontation entre Batman, interprété pour la seconde fois par Christian Bale, et son ennemi juré, le Joker, joué par Heath Ledger, mort en janvier 2008, donc avant la sortie du film. The Dark Knight est le plus gros succès de l'année 2008, dépassant en 2009 le milliard de dollars de recettes. Ça, c'était bienvenu pour la Warner. Oscar du meilleur acteur dans un second rôle à titre posthume pour Heath Ledger et l'Oscar du meilleur montage son. Et effectivement, bon, la prestation de Heath Ledger a marqué tout le monde. 3 millions d'entrées en France. Dernier extrait de ce blind test super-héros.
Papa, j'ai peur.
Allez, Mandy, ma puce. T'es une grande fille maintenant, y a plus rien qui doit te faire peur.
Est-ce que ça va faire mal ?
Ah, la pupuce. Juste une petite seconde, Teresa. Alors, la balle d'un revolver va à plus de...
1100 km/h.
1100 km/h. Alors, à une distance aussi proche, le choc va te faire tomber, ça c'est sûr. Mais ça ne fera pas plus mal qu'un coup de poing dans la poitrine.
Mais j'aime pas les coups de poing.
Tout va bien se passer, ma poupée. Oh ! Alors, ça fait quoi ? Ça fait pas mal, hein ? Et c'est marrant, non ? Voilà, tu sais ce que ça fait.
Trouvé.
Et c'était donc Kick-Ass de Matthew Vaughn, à nouveau, en fait.
Oui, il est deux fois dans ce blind test, mais dans un style complètement différent. Là, on entend Nicolas Cage. Kick-Ass, donc, est un adolescent qui enfile le collant de super-héros sans aucun super-pouvoir et se fait ratatiner à chaque combat. Et nous entendions Hit Girl, une enfant de 11 ans, et son père Big Daddy, hein, qui vont, comme d'autres, aider Kick-Ass. Ainsi s'achève donc ce blind test spécial super-héros, puisque nous parlions de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. On termine cette émission avec peut-être le film le plus confidentiel de toutes les sorties de cette semaine. La société marocaine auscultée par Mohamed Nadif au travers du sort de quatre femmes, c'est les femmes du pavillon J.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama.
Je suis allergique.
Le pavillon J du titre ne renvoie pas à un lieu paradisiaque pour passer des vacances au soleil, mais un centre psychiatrique de Casablanca réservé aux femmes. Alors cet espace sous cloche, s'il n'est pas à proprement parler un endroit de rêve, se révèle néanmoins un havre de paix, institution protectrice, éloignant les patientes de la violence du monde extérieur et dans la plupart des cas d'une toxicité masculine et familiale. Alors les jardins apaisants de l'hôpital, les séances de psy et les ateliers d'art-thérapie un peu résonnent comme des bulles d'air pour ces femmes traumatisées, réfugiées dans cette zone de confort dont elles ne souhaitent pas sortir. Alors même si la situation politique est différente, les femmes du pavillon J développent des enjeux similaires à l'étonnant documentaire iranien que j'avais chroniqué il y a quelque temps, Sunless Shadows de Mehrdad Oskweib, sur des mineurs incarcérés dans un centre de détention. Alors sauf que Mohamed Nadif évoque la situation de femmes qui ne sont coupables d'aucun méfait, portant au pire le poids terrible de la culpabilité ou la sensation de ne plus être en phase avec la société. Alors elles vivent aussi dans un régime démocratique plus ouvert qu'en Iran, mais qui reste assez vertical, soumis à des règles sociétales assez strictes liées aux traditions et à la religion. Cette dimension n'est pas appuyée, en revanche, traitée en arrière-plan, laissant plutôt le récit se développer autour de son joli portrait de femme, pour supporter la souffrance et l'oppression, surtout lorsqu'il y a des visites de la famille, une infirmière et trois patientes s'offrent donc des escapades nocturnes, échappées belles qui leur redonnent un peu goût à la vie.
J'estime qu'il n'y a plus de raison de vous garder ici.
Je ne suis pas prête.
Les femmes du pavillon J est un film à sujet, traité avec délicatesse, abordé sous l'angle du feel-good movie, autour de thématiques pesantes, l'inceste, violence conjugale, maltraitance, perte d'un enfant. Alors rien de bien léger, me direz-vous. Pourtant, le réalisateur essaie de rendre ce drame féministe supportable par la légèreté de ton. Une légèreté qui ne fonctionne pas toujours, le film ayant souvent du mal à choisir une voie, coincé entre, alors d'un côté, un désir de s'affranchir de la gravité de son propos par la comédie, et puis de l'autre côté, son didactisme, dressant un portrait peu reluisant de la gente masculine. Alors non pas que les hommes soient tous des ordures, mais ils sont enfermés dans des stéréotypes, des fonctions figées qui ne sont sans doute pas très éloignées de la réalité. Mais le cinéma est aussi là pour apporter un regard différent, un éclairage singulier, plutôt que d'enfoncer des portes ouvertes. Alors cependant, le réalisateur, lui, n'oublie pas de s'attribuer le beau rôle, puisqu'il incarne le psychiatre posé et compréhensif. Autour de lui, les hommes ne se démarquent pas de leur statut de mâle dominant. La situation sociale et politique du Maroc n'étant sans doute pas l'idéal, on peut convenir que la démonstration ne manque ni d'intérêt ni de lucidité. Mohamed Nadif, après un premier film qu'il a réalisé en 2012, inédit d'ailleurs, Andalousie, mon amour, fait preuve d'un véritable talent de cinéaste lorsqu'il filme son quatuor de femmes, insistant sur les regards et les visages dont il parvient à capter tour à tour l'inquiétude et l'épanouissement, et où d'ailleurs, de ses personnages émouvants. Les quatre actrices, Asra El Adrami, également co-scénariste, magnifique dans le rôle de l'infirmière engagée, et les trois patientes, jouées par Jalila Telmsi, Iman Mekrafi et Rim Fethi, sont bouleversantes. Elles apportent une bouffée d'air frais à une œuvre honnête qui ne parvient pas toujours à trouver un équilibre entre l'aspect solennel du récit et les emprunts à des éléments plus fantaisistes. La mise en scène, élégante mais académique, n'esquisse pas les facilités d'écriture et les ressorts dramatiques mécaniques. En tournant le dos au naturalisme, le réalisateur démontre néanmoins sa capacité à aligner de beaux plans larges très composés et d'un jeu sophistiqué avec la caméra, alors parfois à la lisière d'une esthétique publicitaire, ce que la joliesse de la musique ne fait que renforcer. Mais ne soyons pas trop sévères, la sincérité du projet finit par l'emporter sur les défauts. Ce second long métrage s'avère un témoignage touchant d'un groupe de femmes avides de liberté, acceptant le paradoxe que leur prison dorée est d'une certaine manière le luxe de leur liberté.
Les femmes du pavillon J est en salle depuis le 11 mai.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Mais pour quelle raison ?
Eh bien voilà, on s'est tout dit.
Ah bon ?
Qu'est-ce que vous racontez ?
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est difficile de répondre, comme vous êtes bizarre.
C'est une plaisanterie !
La semaine prochaine, le sommaire est un peu flou. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on aura vu le film de Michel Hazanavicius qui fait l'ouverture du Festival de Cannes. À la semaine prochaine.